Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens ? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?»« 100 mesures d'huile, » répondit-il, et lui dit, « Prends ton billet, assis-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? » ?»« 100 mesures de blé, » répondit-il, et lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé. Car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, « Vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » Nous étudions donc cet évangile de Luc, et dans cet évangile, comme dans les autres évangiles, Jésus a beaucoup parlé d'argent. Ce qui peut nous étonner, parce qu'on se dit que l'argent, ce n'est pas très spirituel. Cela n'appartient pas au domaine de la foi. Mais en fait, si. Ici, dans notre texte, Jésus utilise un mot pour parler des richesses de l'argent, et c'est le mot « mammon ». En verset 9, c'est traduit « richesse ». Mais en verset 13, on parle de « mammon ». On ne traduit pas, on parle de Dieu et « mammon ». Alors ce petit changement reflète que les richesses peuvent facilement basculer devenir un dieu, une idole. Et dans ce cas, on ne parle plus de richesse, on parle de mammon. Donc, l'argent, c'est quand même un sujet spirituel qui touche à notre foi, à notre éternité, à notre salut. Et notre rapport avec l'argent, notre gestion des ressources matérielles, reflète bien souvent le véritable objet de notre foi, de notre espérance. Regardez ces pharisiens. En verset 14, on apprend que les pharisiens écoutaient tout cela. Jésus dévoile la véritable raison. En verset 15, il dit, « Vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. » Donc, ils aimaient l'argent parce que c'était un moyen, parmi d'autres, pour eux, de paraître juste, de s'élever aux yeux des hommes. Et c'est intéressant parce que finalement, les pharisiens avaient deux moyens, deux manières de paraître juste, deux moyens de rechercher le salut en quelque sorte. Une manière, c'était la manière moralisatrice que nous avons étudiée dans le chapitre 15 notamment, avec le parabole du fils prodigue qui dénonce leur manière moralisatrice d'obtenir le regard approbateur de Dieu, la bénédiction. Vous savez, dans la parabole du fils prodigue, ou plutôt des deux fils, le frère aîné, le frère cadet, Jésus a corrigé cette attitude, cette recherche moralisatrice du salut, cette attitude qu'on trouve chez les pharisiens qui se disaient, nous sommes les gens de bien, pas comme eux. Nous respectons scrupuleusement les règles de notre religion, contrairement à cela. Nous avons toujours servi Dieu, pas comme cela, donc nous sommes meilleurs. Nous avons déjà étudié que ce comportement, cette attitude finalement, ne conduit pas à une relation avec Dieu. Et dans ce chapitre, chapitre 16, Jésus maintenant il va viser une autre manière que les gens cherchent à paraître juste, pas tant la manière moralisatrice, mais la manière matérialiste. Et c'est fort parce que si notre société aujourd'hui est de moins en moins attachée à la religion et à la façon, on va dire, morale, moralisatrice d'obtenir le salut, elle est de plus en plus attachée à l'argent, à la façon matérialiste de se mettre en avant, de rechercher à paraître juste. Comme vous savez, l'argent, c'est souvent un moyen de se sentir en sécurité, c'est un moyen de se sentir supérieur aux autres, c'est un moyen de paraître juste, c'est un moyen de rassurer nos cœurs. Mais quand l'argent devient ainsi, on peut effectivement parler de mammon. Alors, ce matin, le projet, c'est dédiviniser mammon, c'est détrôner mammon pour qu'il redevienne richesse pratique, utilisable, normale, et pas mammon qui prend toute la place dans notre vie. Et Jésus va nous aider à faire cela avec cette parabole et des enseignements qu'il en tire. Et pour cela, il nous invite à tout d'abord, premièrement, être avisé, ensuite à se faire des amis, et enfin, bien choisir son maître. Voilà comment nous allons aborder ce conseil de Jésus à réussir notre rapport avec l'argent, notre gestion des ressources. Pour bien faire, il faut être avisé, il faut se faire des amis, et il faut bien choisir son maître. Tout d'abord, Jésus nous conseille d'être avisé en ce qui concerne notre regard sur l'argent, notre manière d'utiliser l'argent. Et c'est dans cette parabole, comme indique le verset 8, c'est ce que le maître loue chez l'économe infidèle, verset 8, le maître loua l'économe fidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé. Le mot avisé, ça veut dire habile ou prudent ou prévoyant ou sage. Et il loue cet économe d'avoir été ainsi. Or, cette parabole a toujours étonné les étudiants de la Bible parce que on loue un économe infidèle. Le maître félicite cet économe infidèle. Et on se dit, mais depuis quand doit-on féliciter l'infidélité? Depuis quand doit-on louer la mauvaise gestion? Mais en fait, il ne s'agit pas de louer l'économe pour son infidélité et pour sa mauvaise gestion. Ce que le maître loue chez cet homme, c'est ce qu'il va faire après avoir reçu notice qu'il va être renvoyé. Dans le premier verset, on apprend qu'il avait mal géré, il avait dissipé les biens de son maître. Même chose d'ailleurs qu'avait fait le fils prodigue avec les biens de son père, il les avait dissipés. Et en cela, rien de louable. Mais là, un peu comme le fils prodigue, il va réfléchir. Il se dit en lui-même, qu'est-ce que je vais faire? J'ai toujours travaillé dans un bureau, dans l'administration, je ne peux pas travailler la terre. Mendier, j'en ai honte, je ne vais pas faire ça. Donc il réfléchit et il trouve une solution. Or, en tant qu'économe, vraisemblablement, il était engagé dans un travail de négoce, un travail de fournisseur pour ses biens comme l'huile d'olive, comme le blé. Et donc, il va aller voir ses débiteurs. Il va leur proposer quelque chose, comme vous voyez. Prenez votre facture, prenez votre billet, assieds-toi vite et on va changer de montant. Et la plupart des commentaires pensent que justement cette remise qu'il fait, c'est la partie que lui-même aurait touchée. C'est un peu sa commission en tant que fournisseur. Il remet la partie qu'il aurait lui-même touchée. Ces jours-ci, d'ailleurs, on voit passer un certain nombre de devis pour les travaux à la nouvelle salle. Et comme vous savez, dans les devis, tout ça, les prix venant des différentes entreprises, les prix pour le même travail et les mêmes matériels peuvent grandement varier en fonction de la part que l'entreprise veut empocher pour sa propre compte. Et comme vous savez, les montants entre plusieurs devises peuvent ça peut aller du simple au double. Les uns vont prendre 20%, les autres vont prendre 100% du travail. Et on est toujours étonné des montants variés que peuvent donner les entreprises. Bien sûr, nous, on préfère les factures où l'entreprise prend un minimum. Donc ici, c'est qu'étonnant, il semble que c'est ce qu'il va faire. Il va prendre la facture et il va barrer son salaire, il va barrer la partie qu'il aurait touchée pour assurer son avenir. C'est prévoyant, c'est sage de sa part de faire ainsi. Il va se faire des amis qui pourraient éventuellement l'accueillir parce qu'il vient de leur faire un geste très, très agréable pour eux. Alors, il ne semble pas que ce qu'il fait relève du vol ou du trafic au noir. Sinon, je pense que ces gens n'auraient jamais l'accueilli par la suite dans leur maison s'ils savaient que c'était un gars connu pour du vol ou du trafic au noir. Non, c'est plutôt, il va sacrifier, il va faire un sacrifice personnel pour assurer son avenir. Et c'est ça, être avisé. C'est ça la démarche que le maître loue. Il réfléchit à la suite. Il est prévoyant. Et pour être prévoyant, il fait des sacrifices dans le présent pour avoir un meilleur avenir. C'est du bon sens. On sacrifie maintenant si ça nous apporte un meilleur avenir. Et Jésus tire cette conclusion en verset 8. Il dit, si les enfants de ce siècle, c'est les gens du monde, ont ce regard prévoyant vers l'avenir et sont prêts à faire des sacrifices, combien plus les enfants de lumière, c'est-à-dire les chrétiens, ceux qui sont en route pour le ciel, pour l'éternité, combien plus eux, ils devraient avoir un regard vers l'avenir, être prévoyants, mais cette fois-ci, c'est une prévoyance éternelle qui va à l'échelle infinie éternelle. Être avisé, c'est simplement réfléchir à la lumière de l'éternité. Quand nous gérons nos ressources et notre argent, quels investissements rapporte le plus pour l'avenir éternel. D'ailleurs, regardez l'intérêt, la préoccupation, la fréquence que cela revient dans les discussions partout autour de nous. Tous les sujets qui touchent à cette prévoyance, à ce rapport avec notre argent, on est constamment en train de parler de ces choses. La retraite, l'âge de la retraite, les cotisations, les RTT, les jours congés qu'il faut poser ou pas, comment réduire son prêt, les solutions d'épargne, comment faire des économies sur l'énergie, tout ça, le monde en parle constamment, ça revient tout le temps dans nos discussions, le monde en parle, les gens y réfléchissent. C'est un sujet politique, c'est un sujet au travail, c'est un sujet à la maison, toutes ces questions-là. Le but, certes, est louable d'être prévoyant et de faire des bonnes économies, des bons investissements. Tout le monde veut faire le nécessaire maintenant pour que ça passe mieux plus tard. Et souvent, la sagesse est prête même à faire des sacrifices maintenant pour assurer un meilleur avenir. Et la réflexion de Jésus, c'est nous inviter à ça, mais sur une échelle éternelle. Si on passe beaucoup de temps à améliorer sa retraite qui dure 20 ans, combien plus il faut prévoir la retraite qui dure au siècle des siècles? Si la fameuse fourmi, à la différence de la cigale, prévoit jusqu'à la saison nouvelle, combien plus nous devons prévoir pour la vie éternelle? Puisqu'ici-bas, les richesses, l'argent que nous touchons, Jésus ici appelle ça des moindres choses, pas des choses véritables, des choses juste à autrui. Mais vient le jour où ce serait vraiment des richesses véritables, des richesses éternelles. Et donc, être avisé, c'est avoir une pensée à cette échelle-là. Ensuite, pour être avisé, pour agir bien, Jésus nous invite à se faire des amis avec notre argent. Verset 9. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. C'est un des versets les plus curieux de la Bible, je trouve. Faites-vous des amis avec les richesses injustes. C'est quoi des richesses injustes? Pour qu'ils, ses amis, vous reçoivent dans des tabernacles éternels. C'est quoi des tabernacles éternels? Quand elles, les richesses injustes, viennent à vous manquer. Ça, c'est en tout cas la conclusion de Jésus à sa parabole. Mais on commence à comprendre ces choses puisque nous étudions Luc depuis un certain temps. Et pour Luc, vous savez, ce qui compte, c'est d'être accueilli dans la maison, c'est d'être reçu un jour dans la présence de Dieu, ne pas se retrouver dehors, ne pas se retrouver à la rue. Et cet économe, c'était son souci. Quand il a appris qu'il allait être renvoyé, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas me retrouver dehors, je ne vais pas me retrouver à la rue. Qui pourrait me recevoir? Et c'est la même question que chacun devrait se poser. Tôt ou tard, les biens matériels vont nous manquer. Je pense que c'est ainsi que Jésus parle des biens matériels, il parle des richesses injustes. Les richesses injustes, c'est tout ce qui appartient à ce monde qui est en voie de disparition. Vous savez, les euros et les dollars ne vont pas au ciel. On peut parler des richesses injustes en quelque sorte, puisque ça appartient à ce monde déchu, ce monde corrompu. Voilà pourquoi il parle des richesses injustes. Mais non seulement les richesses injustes vont nous manquer, mais tout va nous manquer un jour. La santé va nous manquer, la vie va nous manquer, la respiration va nous manquer un jour. Et la question, quand je serai destitué de tout ça, qu'est-ce qui me reste? Qui va m'accueillir? Est-ce qu'on va se retrouver à la rue? Est-ce qu'on va se retrouver dehors? C'est comme ça que la Bible parle de l'éternité du ciel. Ciel, c'est la maison de Dieu. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, dit Jésus. Et l'enfer, parfois décrit comme le lieu du dehors, être rejeté, être renfermé dehors, dans les ténèbres. Alors Jésus dit, il faut pour être accueilli, il faut des amis. Il faut des amis. Alors c'est qui ces amis? Faites-vous des amis. Certains pensent que c'est Dieu et puis toute l'armée céleste, on va dire, Dieu et ses anges. C'est vrai que dans la parabole du fils prodigue, hein, le père reçoit le fils prodigue qui allait danser, et c'était un reflet de Dieu et ses anges qui sont dans la joie quand le fils revient à la maison. Et donc, ce qui nous accueille en quelque sorte, c'est Dieu et puis toute la compagnie céleste qu'il a. D'autres personnes pensent que ses amis, c'est justement des personnes dans cette vie qui vont pouvoir connaître le salut de Dieu, la grâce de Dieu, qui vont pouvoir connaître le seul évangile qui sauve par notre investissement, par nos dons, par notre soutien, par la mission dans laquelle nous sommes engagés. Ils vont pouvoir connaître le message de Dieu et eux aussi vont être là pour, en quelque sorte, nous accueillir dans le ciel. Probablement, il s'agit des dieux. Ces amis-là, Dieu, l'armée céleste, les personnes qui auraient pu connaître l'Évangile par l'investissement de l'Église ici-bas. Mais tout ça, ça fait réfléchir. Faites-vous des amis, parce que tout le monde sait qu'on ne peut pas acheter des amis. On ne peut pas s'acheter des amis avec de l'argent. Imaginons que vous allez auprès de quelqu'un et vous dites... Je te donne 100 euros si tu deviens mon ami. C'est la meilleure manière de ne pas avoir d'amis ou d'avoir de piètres amis. Ce n'est pas ces amis-là que vous voulez. Et donc, évidemment, ce n'est pas ce que Jésus nous est en train d'enseigner. L'amitié de Dieu ne s'achète pas. Son indulgence, son pardon, son amour ne sont pas en vente. Ce n'est pas ainsi que Jésus veut qu'on utilise l'argent. Donc, visiblement, il a une autre pensée en tête quand il dit « Faites-vous des amis avec des richesses injustes, avec les biens matériels, avec les ressources à votre disposition. Faites des amis qui pourraient vous recevoir dans les tabernacles éternels, dans le ciel. » Et je pense qu'il est en train de dire, de nous enseigner, de nous inculquer que par une vie de générosité, par une vie de libéralité, pour des causes qui avancent le royaume de Dieu, pour des causes qui avancent le seul évangile qui sauve, c'est ainsi que nous pouvons en quelque sorte peupler le ciel et apporter gloire à Dieu. C'est comme le soutien missionnaire. Là, dimanche dernier, Benjamin Short a présenté la mission Oikos. Oikos, ça veut dire maison, ou ce qui donne aussi économe. Et par cette mission, le mot est bien trouvé, ils veulent utiliser, être des bonnes économes des biens que Dieu nous confie pour faire avancer la mission, pour accueillir de nouvelles personnes dans la maison de Dieu. C'est bien trouvé. Et donc les missions, comme le messager de la paix ou d'autres missions qui sont engagées dans cette aide humanitaire aussi, le but c'est de pouvoir transformer, on va dire, l'argent, les richesses injustes, dans des choses éternelles, notamment des âmes qui peuvent connaître l'Évangile, qui peuvent être touchées par l'amour de Christ. C'est ainsi que nous nous faisons des amis, en quelque sorte, au ciel. C'est pareil pour le bâtiment que nous sommes en train de travailler. Tous ces travaux, beaucoup d'entre vous donnent de votre temps, des ressources, de l'énergie pour que ce bâtiment avance. Bien sûr, ce bâtiment fait partie des richesses injustes. Ce bâtiment fait partie des choses qui va nous manquer tôt ou tard. Il va tomber en ruine tôt ou tard, peut-être, il ne faut pas dire tôt, avec tout ce qu'on vient de faire hier, mais c'est la réalité. Ce bâtiment va tomber en ruine. Mais ceux qui peuvent rester, nous espérons, c'est notre prière, c'est des personnes qui auraient pu connaître l'Évangile, qui auraient pu grandir dans la foi, qui auraient pu découvrir Jésus comme sauveur. Et ces amis-là, on va tous se retrouver entre amis, on va dire, dans la maison, dans les demeures, dans le tabernacle céleste. Et ainsi, nous aurons pris des ressources matérielles et comme Jésus nous demande de le faire, les investir l'éternité pour se faire ses amis. Donc, être avisé, c'est avoir déjà un regard pas limité, mais bien plus avisé, c'est-à-dire éternel. Et pour cela, se faire des amis, notamment savoir, par une vie de générosité, investir dans des causes qui vont attirer les gens à Christ et leur permettre de connaître l'Évangile. C'est comme ça que nous pouvons vivre avec notre argent. Et enfin, Jésus nous invite à bien choisir son maître. Vous voyez ces pharisiens. Ces pharisiens, on les connaît, ils étaient très religieux, ils se réclamaient de Dieu, ils croyaient en Dieu, ils parlaient de Dieu. Mais Jésus connaissait leur cœur. Dieu connaît les cœurs, verset 15, « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » Ces pharisiens, ils disaient croire en Dieu, mener une vie religieuse, mais au fond des cœurs, Jésus va dépister un problème, et au fond de leur cœur, finalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la chose sur laquelle ils comptent vraiment pour être bien, pour être reçu, pour paraître juste, la chose sur laquelle ils comptent vraiment, c'est l'argent, c'est pourquoi ils l'aimaient. Et Jésus va dire, attention, nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ces pharisiens, c'est ce qu'ils voulaient faire en quelque sorte. Ils voulaient servir, voulaient avoir une place dans le cœur, et pour Dieu, et pour Mammon. Mais Jésus, en creusant dans les cœurs, il voyait que le véritable Dieu, le véritable Sauveur, la véritable chose qui leur permettait de paraître juste, c'était Mammon, c'était l'argent. Et ça, c'est une réalité pour tout le monde. Si on creuse au fond du cœur humain, on trouvera une chose à laquelle on s'attache plus que tout. Si on creuse au fond de chaque cœur humain, on trouvera une chose qui, avant tout le reste, compte pour nous, nous permet de réussir, nous donne notre identité, notre sécurité, notre bonheur. Et comme Jésus dit, en fait, il n'y a pas de place pour deux choses, soit Dieu, ou soit autre chose, comme Mammon, comme l'argent. Et Jésus nous enseigne ici que chacun va naturellement servir, s'attacher à cette chose sur laquelle il compte plus que tout. vous allez aimer, vous allez servir, vous allez suivre la chose sur laquelle vous comptez plus que tout. Vous allez aimer, servir, suivre votre Sauveur. C'est sûr, si ce Sauveur est Jésus-Christ, tant mieux, vous allez le servir. L'aimer, le suivre. Si ce Sauveur est l'argent, vous allez le suivre. L'aimer, s'y attacher. Alors la question n'est pas de savoir si je vais vivre avec un maître ou pas. C'est quel maître? Est-ce que ce sera le Dieu de la Bible ou est-ce que ce sera autre chose? Et c'est la réalité de l'Occident aujourd'hui. On a rejeté le Dieu Sauveur de la Bible, mais ça ne veut pas dire que on n'a pas de maître. Aujourd'hui, le maître de l'Occident, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Sauveur de l'Occident, c'est vrai, c'est l'argent, c'est maman. C'est cette vision matérialiste du monde. Mais la question avec laquelle je vous laisse ce matin, est-ce que maman peut vraiment vous sauver, vous aimer, vous pardonner? Vous savez, maman, il n'est pas compatissant, il n'est pas plein de bonté. Maman, il n'est pas un conseiller admirable qui vous sanctifie et qui vous remplit d'amour jour après jour. Au contraire, maman est un menteur qui vous remplit de jalousie, de stress, d'inquiétude, d'insatisfaction. Et surtout, maman n'est pas mort à la croix pour vos péchés. Maman n'a pas été blessée pour nos péchés, brisée pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix n'est pas tombé sur lui. Par contre, Jésus, oui. Et en tant que maître et sauveur de notre vie, il fait ce que maman ne peut pas faire. Vous savez, nous tous, nous avons, comme cet économe infidèle, nous avons été infidèles. Nous avons, un moment ou un autre, dissipé les biens que Dieu nous a confiés. Nous avons mal géré. Nous méritons d'être licenciés, limogés, renvoyés. Nous méritons de nous trouver dehors. Qu'est-ce que maman a fait pour nous dans cet état? Rien. Il a plutôt augmenté notre malaise, notre insécurité. Mais Jésus, il est venu nous chercher. Et Jésus, il a payé notre dette lui-même. Vous savez, Jésus, il a fait des sacrifices personnels pour assurer un meilleur avenir pour nous. Et c'est ça qui permet de dédiviniser maman. C'est quand on voit ce que Jésus a fait pour nous, les richesses qu'il avait, qu'il a mis de côté pour nous rendre riches, riches en pardon, riches en joie, riches en espérance éternelle. Du coup, l'argent reprend sa juste place dans notre vie. Pas quelque chose à complètement mépriser, mais à utiliser à bon escient, à investir pour l'éternité, à faire du bien autour de vous, à utiliser pour bénir les autres, pour se faire ses amis qui peuvent vous accueillir, à utiliser pour la gloire de Dieu, pour la gloire du Maître. Tout cet argent, finalement, n'est pas à nous. Comme Jésus dit, ce sont juste des biens à autrui. Mais si nous avons su gérer ces ressources matérielles ici-bas, des choses moindres, comme dit Jésus, des choses qui ne sont pas à nous, la promesse incroyable, c'est qu'on va nous confier des choses véritables, des grandes choses. Participer dans cette demeure céleste, ce serait avoir des choses qui enfin vous appartiennent vraiment. Alors, soyons avisés, faisons-nous des amis, choisissons le bon maître. C'est ainsi que nous pouvons bien gérer notre argent.